Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodesavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Quelques jours après la fameuse Saint-Valentin, on s'intéresse aujourd'hui à la contraception masculine. Des méthodes existent, vasectomie, contraception thermique ou contraception hormonale. Mais quand on veut s'y mettre, ce n'est pas toujours si simple. Où trouver de l'info fiable? À qui en parler? Est-ce que ça marche vraiment? On écoutera celles et ceux qui s'engagent pour une équité contraceptive, celles et ceux qui ont essayé et parfois galéré, celles et ceux qui font de cette question intime un enjeu politique. Quasiment 10 ans après une première émission du Labo des Savoirs sur le sujet, qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons avec nous en plateau pour cette émission Manon Lacroix, médecin généraliste à Nantes. Bonjour Manon.
Bonjour.
Mais également Max et Théo du collectif des Gonades. Et nous entendrons également Étienne et Victor pour leur chronique et les témoignages d'Adrien et de Val. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
On va prendre les choses dans l'ordre et commencer par un petit historique des méthodes de contraception. Et c'est Étienne qui va maintenant nous en parler. Mieux comprendre comment les méthodes ont évolué, à quelle vitesse, sont-elles vraiment utilisées et au passage, rappeler quelles sont-elles.
La contraception masculine, ça a évolué hyper vite. Tellement de demandes des hommes pour participer à la contraception du couple. Non, je déconne. Il y a eu une émission du Labo des Savoirs il y a presque 10 ans, émission de 2017 à retrouver sur toutes vos meilleures applications d'écoute de trucs. Eh bien, Daniel Aptekier, l'un des pionniers de la recherche sur la contraception masculine, disait que ça faisait 35 ans qu'il travaillait dans ce domaine et qu'on lui parlait toujours comme si c'était le début. Et si je ne m'abuse, 10 ans après, ça ne semble pas avoir tant changé.
Ok, ça avance pas très vite, mais il y a tout de même des méthodes, non?
En effet, et même un petit paquet, sans mauvais jeu de mots. D'abord, la plus connue, le plus caliente des caoutchoucs, le plus chou pour ton petit bout, la capote. Des dispositifs proches du préservatif masculin, il semble qu'on en retrouve dès l'Égypte antique, où cela semblait plutôt être décoratif. Chez les Chinois en papier huilé, chez les Japonais en écailles de tortue, pour bloquer le flux et rester bien tendu. Difficile de connaître précisément l'origine de notre préservatif moderne. Mais on en trouve des traces, écrites bien sûr, depuis les années 1700. Au départ plutôt avec des membranes animales. Les premiers préservatifs en caoutchouc à partir du latex naturel sont proposés à partir de 1855 pour être remplacés dans les années 1930 par des préservatifs en latex synthétique. Et lui, il est bien utilisé. Bien joué les gars. Et les filles aussi.
Oui, on peut parler de moyens de contraception masculine pour le préservatif masculin, mais c'est surtout un travail d'équipe. Il y a bien d'autres alternatives?
Eh oui, plein. Comme le préservatif, d'autres méthodes peuvent empêcher les spermatozoïdes de féconder l'ovule. Principe 1, méthode thermique. Augmenter la chaleur des bouboules de quelques degrés en les remontant vers le corps. Eh oui, elles sont dans une bourse séparée pour être assez au frais, pas juste pour s'écrouler, en cas de coup de pied. Dans cette catégorie augmentation de la chaleur, on retrouve le slip chauffant, aussi appelé remonte-couille toulousain, ou slip mieuxé, du nom de son inventeur. Mais aussi le jockstrap, sous-vêtement de fabrication artisanale, et l'anneau chauffant. Ça ne chauffe pas vraiment, ça remonte juste au chaud. Pour le côté historique, la compréhension de l'effet de l'augmentation de la chaleur sur la baisse d'efficacité des spermatozoïdes date des années 1930, avec la médecin Marthe Vogely. Les premières idées de méthode réellement dans les années 1970-1980 et 1990 pour le slip mieuxé. Malheureusement, ce principe de réchauffer les testicules en les rapprochant du corps a eu peu de succès chez les industriels. Et la recherche s'est un peu éteinte par la suite, même si ces techniques continuent parfois de remonter en popularité. Autre moyen, la pilule pour homme. Depuis les années 1960 et encore plus à partir des années 80, il y a des recherches pour un contraceptif masculin oral, le plus souvent hormonal. mais il a souvent été abandonné, entre autres à cause des effets secondaires, qui sont, entre parenthèses, plus ou moins les mêmes que la pilule chez la femme. Plus récemment, 2025, une équipe états-unienne a obtenu de premiers résultats d'inhibition de la spermatogenèse non hormonale. Affaire à suivre. Autre nouveauté, un stérilet pour hommes, le Stéhome, a été en début d'année lauréat du Challenge Inclusion dans la catégorie produits et services. Autre possibilité, peut-être plus contraignante, les injections de testostérone visant à bloquer la spermatogenèse. Elles existent depuis les années 1930 et sont utilisées chez l'homme depuis la fin des années 1970. Plus invasif, mais pas forcément définitif, la vasectomie est utilisée dès 1885, mais est légale en France seulement depuis 2001. C'est une procédure chirurgicale qui bloque les canaux transportant les spermatozoïdes des testicules vers le liquide spermatique. C'est potentiellement réversible, même si c'est compliqué. Il y a néanmoins eu récemment de nouvelles études pour le faire avec un gel, parfois appelé implant contraceptif, qui pourrait être débouché. La méthode du retrait est aussi souvent citée malgré son efficacité limitée et sa mise en pratique, disons, technique. Selon la Haute Autorité de Santé, HAS, il y a actuellement trois méthodes de contraception utilisables chez l'homme, le préservatif masculin, la vasectomie et le retrait, étonnamment. En conclusion, le sida a participé à faire privilégier la bonne vieille capote aux autres moyens de contraception masculine. Il est vrai. Ces moyens ne sont toujours pas parfaits. On ne peut le nier. Mais on n'a pas fait tant de manières pour se réserver aux femmes. Et de nombreuses études montrent que les hommes et les femmes sont prêts et prêtes. Alors, si pour la contraception, l'homme était l'avenir de la femme.
Et merci Étienne pour cette chronique. Nous revenons donc en plateau avec Manon Lacroix, qui est médecin généraliste à Nantes et intervenante au planning familial 44, qui a un regard plus scientifique sur la question car elle a notamment écrit une thèse sur le sujet de la contraception thermique. Alors Manon, est-ce qu'en tant que médecin, vous avez déjà accompagné des personnes vers la contraception masculine et comment vous les avez aidées à choisir la méthode qui leur convenait ?
Alors oui, ça fait partie entre autres de mon activité, que ce soit au cabinet de médecine générale ou au planning familial. Déjà, je dirais que c'est quand même assez rare que ça arrive de but en blanc ou par ma proposition, c'est-à-dire que c'est plutôt des hommes qui vont venir en ayant déjà fait pas mal de recherches de leur côté parce qu'il y a une demande au sein de leur couple la plupart du temps ou parce que ils se sont posés eux-mêmes des questions sur leur fertilité et sur la manière de la gérer. Bref, donc c'est très rare que ça soit à notre initiative, nous, corps médical, déjà. Même si ça peut arriver, hein, notamment quand on a affaire à des femmes qui galèrent avec leur méthode. Il n'y a aucune pilule qui convient, elles veulent pas de stériler, l'implant, ça leur a pas réussi, etc., etc. Auquel cas, on peut glisser, suggérer, « Ah, mais vous savez, peut-être que ça peut être votre compagnon aussi qui s'en occupe. » Ah bon, voilà, faites vos recherches de votre côté, parce que comme on l'a écouté dans le sujet, en fait, il n'y a pas énormément de méthodes actuellement qui sont approuvées et agréées. Et nous, en tant que professionnels de santé, on n'a pas le droit, en fait, de faire la promotion de la contraception thermique par remontée testiculaire. Même si, évidemment, on n'est pas interdit d'accompagner les gens là-dedans. Donc, on est sur un genre de petit fil tendu où faut pas en faire trop la publicité, mais où en même temps, on est dans une démarche de réduction des risques face à des personnes qui veulent mettre en œuvre cette méthode. Voilà. Donc après, comment ça se passe une consultation ? Peut-être que on peut partir là-dessus.
Dites-nous.
Moi, en fait, je procède dans mes consultations de contraception dites masculines comme dans mes consultation de contraception dite féminine, c'est-à-dire avec les guidelines de l'OMS qui nous obligent à présenter l'ensemble de l'éventail des méthodes disponibles. Et donc, je fais pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que les hommes, je vais quand même leur parler de stérilet, d'implants, de pilules, etc. Et puis, évidemment, des autres choses qui les concernent un peu plus, donc la vasectomie, les méthodes innovantes là dont on a parlé, donc la thermique par remontée testiculaire et l'hormonale, le préservatif, le retrait, tout ça y passe et un peu décortiqué. On regarde comment ça marche, à quel point c'est efficace, etc. Et puis ça leur permet après de poser davantage de questions et de sélectionner ce vers quoi ils se tournent.
Et donc vous conseillez, enfin, comme là on a dit, il y a des méthodes qui sont certifiées, d'autres non. Donc vous les présentez toutes, mais vous orientez pas du tout les choix. Enfin, c'est vraiment en fonction de la personne. Parce que notamment pour les méthodes qui ne sont pas certifiées, comme vous disiez. Donc c'est les présenter, mais est-ce que vous réorientez vers d'autres personnes ?
Globalement, je vais assez peu parler des dispositifs, notamment ceux qui sont en vente, parce que je leur dis que j'ai pas trop le droit de leur dire, mais qu'ils peuvent chercher l'information et revenir me voir quand ils ont de quoi faire, en fait. Voilà. Et je donne quand même le contact des gonades, donc le collectif d'usagers qui est présent sur la région de Nantes, pour qu'ils aillent aussi à la pêche aux infos et éventuellement aller se fabriquer un petit anneau ou un petit slip, voilà. Mais clairement, j'ai pas le droit de mettre des affiches dans le cabinet en disant la méthode thermique c'est trop génial, allez sur ce site internet, achetez cet anneau, etc. Ça c'est quelque chose qui nous est défendu. Mais j'estime qu'on a quand même un devoir d'information. Il y a des gens qui galèrent vraiment avec leur méthode de contraception. Si bien informés de tous les risques et surtout toutes les incertitudes de la méthode, ils décident quand même de s'y pencher. Moi, je suis personne pour les empêcher.
Et après, vous les accompagnez dans ces méthodes-là? Il me semble qu'il y a des choses à faire avec des spermogrammes régulièrement, donc il faut un suivi quand même médical là-dessus.
Ouais, tout à fait. C'est aussi ça la démarche, c'est de se dire que les gens, ils vont pas faire ça tout seuls dans leur coin et que nous, on est là à la fois pour les conseiller, pour surveiller comment ça se passe, pour vérifier l'absence de contre-indications au départ et être la personne qui va interpréter les différents spermogrammes. Faut en faire un avant de commencer la méthode pour s'assurer qu'on a une fertilité de base normale, parce que si jamais l'homme est infertile, on pourra pas lui garantir qu'après la méthode, ça n'ait pas aggravé les choses, en fait. Donc, on a besoin de partir sur des gens déjà qui ont une fertilité de base normale. Donc, ça, c'est ultra important. On les examine cliniquement, ce qui provoque quelques rires, mais bon, voilà. Ah, bah, dis donc, moi, je ne suis pas habituée, c'est vrai, à me faire regarder comme ça. Je pense beaucoup à ma copine qui a subi ça plusieurs fois en allant chez le gynéco et tout ça. Donc, voilà, ça permet de faire des parallélismes. C'est des petits moments quand même assez rigolos, plus rigolos que chez le gynéco, je pense. Et puis après, on les suit, on fait des spermogrammes tous les 3 mois, en fait, à peu près, pour vérifier que la méthode est bien efficace éventuellement faire des petits ajustements dans la durée de port, comment il porte son dispositif, etc., si jamais on n'arrive pas à atteindre le seuil de contraception.
Donc ça, c'est pour la méthode thermique. Et est-ce que, par exemple, sur la vasectomie ou sur les méthodes hormonales, donc là, il n'y a pas de certification non plus?
Alors, la vasectomie, ça, pour le coup, c'est autorisé par la loi française depuis 2001. Alors, c'est assez récent, hein, quand même. Ça se pratiquait un petit peu avant, sous le manteau, mais le vrai cadre législatif existe depuis 25 ans. À Nantes, on a de la chance parce qu'en fait, ça se pratique par des médecins généralistes. C'est un peu une spécialité du coin au centre de planification du CHU, donc qui s'appelle le centre Simone Veil, où les collègues opèrent en anesthésie locale, vraiment dans la salle de consultation du centre d'IVG, quoi. Les hommes qui en sont demandeurs. Et puis, il y a tout un réseau également d'urologues, que ce soit à l'hôpital ou dans les cliniques. Les Pays de la Loire sont la région championne en termes de nombre de vasectomies en France. Voilà, cocorico. Yes. Enfin, bon, je pense que la vasectomie, ça actuellement, en tout cas, la sociologie et la démographie des gens qui font des vasectomies, c'est plutôt des hommes de plus de 40 ans qui ont déjà des enfants. Et donc, je pense qu'ils en parlent à l'apéro. Ah ouais, t'as fait la tienne. Ouais, moi, je vais y passer, tout ça. Voilà, ça se fait aussi pas mal par bouche à oreille, cooptation, modèle, en fait, d'identification. Donc ça, en tout cas, c'est tout à fait légal, encadré, etc. Et quant à l'hormonal, en fait, on a les médicaments, donc c'est de la testostérone injectable, mais elle n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en France pour la contraception. Ce qui fait que nous, on peut la prescrire. D'ailleurs, théoriquement seulement, la première ordonnance doit être faite par un spécialiste, donc qu'il soit endocrinologue, gynécologue, andrologue, etc. On arrive un peu à se débrouiller autrement, faut avoir des pharmaciens sympathiques à disposition. Bref, c'est les mêmes hormones aussi qu'on utilise chez les personnes trans, donc chez les personnes trans masculines, hein. C'est juste que là, pour la contraception, on va utiliser des doses plus fortes de testo pour saturer en fait le système et que du coup le corps il comprenne qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de testostérone, donc il va plus y avoir de signal envoyé vers le testicule va plus produire sa propre testostérone et donc non plus ses propres spermatozoïdes. C'est comme ça que ça marche, c'est le même principe que la pilule hormonale chez les femmes. On sature le système en œstrogène, en progestérone, et ça met au repos les ovaires. Donc ça, c'est des protocoles dont on a un peu moins l'habitude en pratique. Pour deux raisons, c'est assez contraignant. Il faut s'injecter des hormones une fois par semaine. Il y a des effets secondaires qui sont un peu différents de ceux de la pilule, mais tout aussi embêtant, notamment au niveau de l'acné, de la prise de poids, prise de muscle, augmentation des poils, irritabilité et augmentation de la libido. Ça, c'est un peu différent de la pilule, mais bon, bref, ça, faut pouvoir le gérer aussi. C'est pas pour tout le monde à tous les niveaux, etc. Mais voilà. Et puis surtout, en fait, les hommes qui viennent nous voir pour la contraception masculine, c'est très très rare qu'ils soient demandeurs d'hormones. On est dans une ère en ce moment où les gens sont un peu anti-hormones. Ils veulent des solutions plus naturelles que ça. Et donc, ça reste à la marge actuellement. On estime qu'en France, il n'y a pas plus de quelques centaines d'hommes qui font de la contraception avec la testo. Et probablement, on est plutôt autour de quelques dizaines. Donc, c'est vraiment une contraception de niche, quoi.
Et sinon, il me semble que vous faites partie d'un groupe de travail au Collège de médecine générale sur le sujet. Et du coup, j'aimerais savoir un peu ce qui s'y passe dans ces groupes de travail.
Oui, donc je fais partie avec d'autres collègues médecins généralistes d'un groupe de travail sur ce thème-là au Collège de la médecine générale qui nous offre du coup des outils et une plateforme pour parler des méthodes. Notre principal but, je dirais, c'est vraiment l'information et la formation à destination des médecins généralistes. Donc on a créé des outils, des guides d'accompagnement clinique pour notamment la contraception thermique par remontée testiculaire puisque c'est ça la principale demande du terrain. Mais on fait aussi d'autres choses, on fait de la veille documentaire sur tous les travaux de recherche, les méthodes qui sont en développement en ce moment. On aide aussi à la mise en relation des équipes de recherche ou des éventuels thésards pour trouver des directeurs ou des directrices de thèse pour leur sujet. Et puis on a un travail aussi d'expertise et de plaidoyer auprès des différentes institutions, comme la NSM, la HAS, les ministères divers et variés, etc. Bref, un peu de tout ça. À notre modeste échelle, on n'est pas un grand organe non plus de travail, mais voilà, enfin c'est un peu ça nos missions. Mais surtout et d'abord la formation des médecins généralistes et la diffusion en fait des bonnes pratiques.
Et donc, vous avez dit qu'il y a pour un peu parler des méthodes en développement, dans la chronique d'Étienne, il a parlé du stérilet pour hommes qui venait de sortir. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ou pas du tout?
Alors ouais, on les a contactés, cette équipe. C'est une équipe lilloise. Mais en fait, ils n'ont pas voulu nous donner beaucoup d'informations. Voilà, ça reste encore assez secret. Probablement qu'on est sur un genre de méthode, comme ça a été dit après, avec l'injection d'un petit gel ou d'un petit dispositif à l'intérieur du canal déférent qui serait réversible. Voilà.
Okay.
Mais on est en stade vraiment très très tôt, en tout cas dans les investigations et le développement. Et donc, voilà, ça reste un peu secret.
Une méthode secrète à suivre. Et vous disiez aussi qu'il y avait beaucoup plus, il y avait des thésards qui vous contactaient. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de recherches là, sur les dernières années, est-ce qu'il y a eu vraiment un intérêt croissant pour le sujet, dans la recherche en tout cas?
En tout cas, pour ce que je connais, c'est-à-dire les thèses de médecine générale, qui sont des petits travaux de recherche de fin d'études, des étudiants en médecine, il y a eu clairement un genre d'explosion là, dont je fais partie sur ces dernières années. Aussi parce que je pense que la contraception masculine, c'est un sujet assez sexy. Voilà, on sort de l'éducation thérapeutique, du patient diabétique. Non, on vient parler quand même de choses un peu plus rigolotes, palpables. Voilà, donc il y a eu pas mal de thèses et de sujets développés ces dernières années.
On enchaîne sur une petite pause musicale avec Bang Bang de Oussi Freya.
My name is Uzi if I'm 22 years old. I got a motherfucker, Gaza in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me all close. I will never plastic, comes I'm in the magic, ick it. I will never gonna some to be. I don't wanna waste my time when there's some to be. I got a something in the clothes. You're a motherfucking horse, you're a motherfucker. Damn that bitch is coming to go, they got to the make it. Suffer the dose of the game, so the ride to the game, so the motherfucker base that it comes to the muck of the day. I'm gonna shine, I'm gonna watch it, I'm gonna mic. I'm gonna bust it up, I'm gonna get it, I'll cost it up. Everybody come shut the night. I gotta bank it against, I'm gonna show to the bank of the bang. I'm gonna sink it a bit, edgy and end it, come with a bang, bang, bang. I'm gonna flow space, I'm a mother full stage. I got grace on the hate, I'm the mugger, oh say. I got swipe, swipe, swipe.
swap to the left. Make a dumb shit, I just swap to the right. Come on. Bang, bang, got it like a shang shang. I got clothes and a motherfucking bang, bang. I got a haze, I'm gonna shine, yeah, that motherfucking hit. I'm gonna buy the castle gate, I'm gonna water the fucking day. I'm gonna show, I'm gonna flows, I'm gonna make it a call for the day. I'm gonna make it skiff, I got a case, all for the day. I'm gonna who's touching me, they gotta come to the baddie go. Another shank and a baby that comes to the mark of my idiot.
I'm gonna Émission activatrice de synapses.
C'était Bang Bang de Uzi Freya. Et nous sommes de retour en plateau avec Manon et Victor qui nous a rejoints. Parler de contraception masculine, c'est aussi l'occasion de parler de la contraception tout court et de sa perception par les hommes. Indispensable pour protéger des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, la contraception est pourtant mise en péril par la propagation des contenus masculinistes sur le net.
En effet, en décembre dernier, l'association SIDAction a publié une enquête alarmante sur les liens entre masculinisme, contraception et recrudescence du VIH. L'enquête a été réalisée par le groupe OpinionWay, qui a interrogé en novembre 2025 plus de 1500 personnes de sexe masculin, dont 800 jeunes de 16 à 34 ans. Elle met en évidence l'impact délétère des discours masculinistes sur la prévention et la santé sexuelle, mais aussi le rapport au consentement. Avant de commencer, une petite définition s'impose pour savoir ce que l'on entend par masculinisme. Le masculinisme peut être défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne et antiféministe, s'appuyant sur une rhétorique qui nie l'existence du patriarcat, tout en invoquant une crise de la masculinité, nuisant aux hommes et leur virilité. Les idées masculinistes se propagent principalement via les réseaux sociaux, par certains influenceurs et forums, au sein de ce que l'on nomme maintenant la manosphère. Cette idéologie passe souvent par des slogans que vous avez peut-être déjà entendus, du style « le féminisme est allé trop loin »,« aujourd'hui ce sont les hommes qu'on discrimine », et elle doit être prise comme une menace grave, car elle a déjà mené à des féminicides, comme en témoigne par exemple la tuerie de l'école polytechnique de Montréal en 1989, où 14 jeunes femmes ont perdu la vie. Et comme cette rhétorique passe par le biais des réseaux sociaux, elle touche particulièrement les jeunes qui y sont le plus exposés.
Sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de contenus masculins qui critiquent le féminisme et justifient la domination des hommes. Mais qu'est-ce qu'il en est sur la conséquence sur la contraception ?
Eh bien, pour répondre, plongeons-nous dans cette étude. Celle-ci se compose de deux grandes parties, une sur l'exposition au contenu masculiniste et l'autre sur le rapport aux pratiques sexuelles et au consentement. Le premier constat, c'est que ces contenus masculinistes sont bien connus des jeunes hommes. 66% des hommes de 16 à 34 ans connaissent l'existence d'influenceurs ou comptes masculins, et parmi eux, 37% déclarent en consulter régulièrement les contenus. Là où ça devient alarmant, c'est qu'au sein de cette population qui visionne des contenus masculinistes, près d'un jeune sur deux déclare que ces contenus disent enfin la vérité, et 38% déclarent qu'ils les rassurent sur leur manière d'être un homme. Un terme qui revient souvent dans l'étude, mais aussi dans les contenus masculins, dont c'est un des étalons de bataille, si j'ose dire, c'est la virilité. 51% des hommes interrogés trouvent que la virilité, c'est important, et ils sont 46% à regretter que les hommes d'aujourd'hui ne soient pas assez virils. Cette virilité, elle se réfère à des valeurs comme la force, le courage, mais aussi à la vigueur sexuelle. Et par le prisme du masculinisme, elle devient un idéal permettant aux hommes d'affirmer leur domination sur la féminité à laquelle ils s'opposent. Selon la directrice de SIDAction, Florence Thune, cette inquiétude de la virilité, qui intervient dans la construction identitaire, semble être directement connectée aux pratiques sexuelles, et notamment à la contraception. En effet, 31% des 16-34 ans se sentent plus puissants quand ils ne portent pas de préservatif ou estiment que les femmes doivent respecter les hommes qui refusent d'en porter. Pire, un jeune sur 6 pense que le préservatif est un signe de faiblesse. Il est donc plus que jamais important de rappeler que le port du préservatif n'est pas une faiblesse, mais reste la seule méthode efficace pour se protéger, à la fois des grossesses et des infections sexuellement transmissibles. À cause des théories véhiculées par les contenus masculins, on assiste à une véritable fragilisation de l'utilisation de la contraception, qui peut en partie expliquer la recrudescence des cas de VIH que l'on observe ces dernières années, avec une hausse de 41% de dépistage séropositif chez les 15-24 ans en 10 ans.
Et cette dévalorisation de la contraception, j'imagine que ce n'est pas le seul impact négatif des contenus masculinistes.
Et malheureusement non. On observe aussi un effet encore plus insidieux sur l'érosion du consentement cette fois. L'étude prend par exemple le cas du stealthing, furtage en français, une pratique qui consiste à retirer son préservatif en plein acte sans l'accord de son ou sa partenaire. Je m'arrête ici pour préciser qu'il s'agit d'une agression sexuelle, malgré l'absence de juridiction claire de la part de la France sur le sujet. Si 10% des hommes déclarent comprendre cette pratique s'ils estiment que le port du préservatif leur a été imposé, le chiffre monte à 34% parmi la population qui consomme des contenus masculinistes. Avec ces contenus, on assiste à un effacement progressif de tous les progrès des droits des femmes qui ont été réalisés ces dernières années. On peut penser à la reconnaissance du consentement dans la définition légale du viol, qui tout devient vraiment érodé par ces contenus. En conclusion, il serait bon de montrer cette étude à tous ceux et celles qui nieraient les conséquences gravissimes des contenus masculins sur les jeunes et la société en général. Ces chiffres alarmants soulignent aussi l'importance de la prévention pour les jeunes. Une étude commanditée par l'Organisation mondiale de la santé a ainsi montré que le taux de grossesse chez les adolescentes est plus important dans les pays dépourvus de programmes obligatoires à l'éducation sexuelle. Il est de plus en plus crucial de valoriser les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour contrer les idées reçues masculines et rappeler l'importance de la contraception et du consentement. Pour en savoir plus sur le sujet, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la campagne de prévention Alpha Safe lancée par Cidaction en novembre dernier et qui cible justement les contenus masculinistes en reprenant et détournant leurs codes, cette fois-ci pour sensibiliser les jeunes.
Eh ben merci Victor pour cette chronique. Est-ce que Manon, vous voulez... il y a des choses qui vous ont interpellé dans cette chronique, vous voulez réagir à des choses ?
Oui, écoutez, moi c'est des choses que j'arrive à aussi percevoir de notre société actuellement. Ça m'a évoqué quand même que, en fait, le masculinisme, c'est aussi une menace pour la contraception masculine, mais ça peut aussi être un genre de levier marketing. Alors je vais m'expliquer.
Dites-nous.
Actuellement, les masculinistes et les influenceurs masculins voient les hommes qui se contraceptent comme des hommes faibles, les hommes soja, on entend aussi, etc. Donc, c'est-à-dire des hommes soumis, qui seraient soumis aux nouvelles idées progressistes, féministes, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi un intérêt masculiniste à la contraception quand on pense que les femmes sont des voleuses de sperme et qu'elles veulent faire des enfants dans le dos. Donc, ça, un jour, peut-être, ça pourra être un argument pour eux pour venir utiliser des méthodes contraceptives. Et donc, ne peut-on pas l'utiliser à notre avantage aussi, en partant de ce constat-là et en remodelant en fait le discours autour d'un discours de responsabilité qui est une valeur ultra virile aussi. Aux États-Unis, en tout cas, c'est des choses qui sont vachement faites, notamment, enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de vasectomies, hein, comme dans tout le reste des pays anglo-saxons, c'est culturel et historique. Et on voit des campagnes qui disent "Be a man, get a vasectomy." Voilà, sois un homme, fais ta vasectomie. Voilà, parce que c'est aussi une preuve de virilité, de care hein, envers sa femme, sa famille, etc. Et donc, en tout cas, peut-être qu'on peut un petit peu utiliser ces codes-là aussi. Et derrière, nous, enfin, à la fois le milieu militant et le milieu médical, remettre les choses un peu à niveau aussi et diffuser des informations de bonne pratique, notamment sur le port du préservatif. Là, vraiment, je suis toujours aussi estomaquée de voir le recul du port de la capote. Et si en plus on dit que c'est un signe de faiblesse, on n'est pas sorti du sable pour la lutte contre les IST. Voilà.
Pas sorti du sable. Merci pour cette expression. Mais du coup, là, les personnes que vous accompagnez, c'est pas... il y a très peu de personnes qui viennent dans cette démarche-là. Enfin, j'imagine peut-être pas du tout d'ailleurs. Dans la démarche masculiniste.
Clairement pas. Hein. Mmh. Actuellement, la sociologie de l'homme qui se contracepte, c'est plutôt un urbain, CSP+, blanc, qui est souvent végétarien, fait de l'escalade, du vélo. voilà. je rigole, on aime bien travailler avec les clichés, c'est pas l'entièreté des gens qui sont comme ça, mais il y a un genre de pattern quand même et de moule dans lequel ils sont au départ. Bref, c'est juste des hommes aussi qui souvent souvent fréquente des femmes qui se posent des questions, qui sont dans des réflexions progressistes sur la place des hommes et des femmes dans la société, et du coup, qui ont une réflexion eux sur leur place dans le travail reproductif du couple en fait. Voilà.
Et est-ce que vous diriez que c'est une démarche militante du coup de se contracepter ?
Bah actuellement, certainement oui, parce que faut avoir envie d'utiliser des méthodes qui, comme on l'a dit, sont pas parfaitement assurées et que, sur lesquelles il demande quand même beaucoup d'incertitudes. Donc je dirais que c'est une pratique en tout cas un peu pirate de la médecine et de la santé. Mmh. Militant, c'est autre chose. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui se contraceptent qui après s'engagent dans des pratiques militantes, c'est-à-dire dans une forme de diffusion de l'information, dans l'engagement auprès de collectifs, etc. Mais c'est pas tout le monde non plus. Et quant à dire est-ce que c'est militant ou pas, je veux dire, moi quand je prends ma pilule ou quand je me fais poser un stérilet, j'ai pas l'impression d'être une grande militante non plus. Hein. Ce dont je prends soin, c'est de ma propre fertilité, c'est de actuellement j'ai pas envie d'enfant, donc bah, je trouve une solution pour ne pas en faire. Et en fait, bah, il faudrait aussi qu'on voit ça pareil chez les hommes. Et éveiller hein, à pas les héroïser quand ils le font non plus hein, parce que c'est voilà, quand on en parle au détour d'un petit verre avec des gens qui connaissent pas trop, ils sont là oh, quand même, oh là là, mais quelle abnégation quelle implication, c'est incroyable. Mais moi on m'a jamais dit ça quand je prenais ma pilule tous les matins. Donc on peut aussi se dire que chacun fait sa part du travail, chacun s'occupe de lui ou de elle pour veiller à sa propre santé, au propre contrôle de sa fertilité, et plus on aura de méthodes disponibles, et bah, plus on arrivera chacun à atteindre ce but et cet objectif.
Eh ben, merci beaucoup Manon Lacroix d'avoir participé à cette émission, c'était fort intéressant.
Merci.
Merci Victor aussi.
Merci.
On se retrouve pour la suite de l'émission après le morceau 50-50 de Jockstrap. TikTok, ça y
Sciences au Labo des Savoirs.
C'était 50-50 de Jockstrap. Nous sommes de retour en plateau avec plein de nouvelles têtes.
Eh bien, nous sommes en présence de quatre personnes, plutôt jeunes. Nous avons Max et Théo de l'association des Gonades qui vont nous présenter leur asso. Et en face d'eux, Adrien et Val qui, eux, se contraceptent mais qui ne sont pas passés par l'association. Ils vont nous en dire un peu plus. On va commencer avec Adrien. Toi, quel est ton rapport à la contraception? Est-ce que tu te contraceptes depuis quand? Et comment? Pourquoi?
Oui, effectivement, en fait, ça a commencé parce que je trouvais ça super injuste que les contraceptions féminines et majoritairement chimiques ont toutes des effets secondaires qui sont super nuls. Donc je me suis renseigné en lisant de la documentation. J'ai vu un petit peu aussi le site des Gonades et j'ai vu qu'il y avait des rencontres, etc. Mais comme je suis quelqu'un d'assez impatient, au final, j'ai décidé de fabriquer moi-même un anneau contraceptif. J'ai la chance d'avoir une imprimante 3D à la maison, donc en fait j'ai bricolé quelque chose pour me faire un moule en silicone, un moule en plastique pour faire un anneau en silicone. Et donc là ça fait 5 mois que je suis contracepté. Et ça marche grave bien, avec spermogramme régulier pour vérifier que tout est bien mort et ça roule, quoi.
Ok, et t'as trouvé donc de la documentation facilement, pas facilement, c'était comment?
Ça c'était assez marrant parce que j'ai trouvé de la documentation sur internet, sur divers sites. Je crois qu'il y avait Torem que j'avais vu. C'est d'ailleurs le premier anneau que j'ai testé. Il venait de, j'ai imprimé leur modèle. Et j'ai aussi eu le plaisir d'avoir un rendez-vous avec un urologue pour justement avoir un avis médical là-dessus. Qui m'a dit que. Alors lui, il connaît pas. Alors c'était un jeune en plus. Et il m'a dit qu'il connaissait pas, qu'il recommandait pas. Parce que c'était pas suffisamment sûr. Donc, je lui ai demandé, est-ce que c'est pas suffisamment sûr parce qu'il y a des erreurs dans la manière dont c'est porté, ou est-ce que quand c'est porté de manière correcte, c'est sûr. Il savait pas répondre à la question. Donc globalement, en fait, j'ai vu un médecin qui comprenait pas grand-chose, enfin qui n'y connaissait pas grand-chose. J'ai appris après qu'il y avait au CHU des médecins qui étaient spécialisés là-dedans et qui étaient apparemment plus cool et qu'au CHU ça passait mieux, mais bon, je savais pas à ce moment-là.
Et donc, confirme.
Ah oui. Tu veux réagir?
Je dis on confirme.
Okay. Tu disais, du coup, ça fait 5 mois à peu près. Mm-hmm. Donc, ça fait. Donc, tu t'es renseigné avant ça. Ça fait combien de temps que tu te renseignes à peu près?
5 mois plus le temps de faire un premier prototype, donc 6 mois.
Ok, donc ça a été assez rapide.
Ouais.
D'accord. Est-ce qu'on passe peut-être à Val? Toi, est-ce que tu as une expérience similaire?
Alors, j'ai une expérience un peu différente, du coup, dans le sens que je suis contracepté, mais pas du tout de la même façon. Ça fait depuis très très longtemps que je sais personnellement que je n'ai pas envie d'enfant. Donc déjà, ça c'est un premier truc. Et la deuxième chose, c'est en effet que dans la relation que j'ai avec ma partenaire, la charge contraceptive, c'était elle qui la portait d'abord avec la pilule. Et donc du coup, moi je la portais pas. Et ensuite, à un moment, elle a souhaité arrêter la pilule, pas de problème avec ça. On est passé derrière sur des préservatifs, mais on avait envie d'avoir une solution qui soit peut-être plus proche de nous et où je porte une part de la chose aussi, peut-être de manière un peu plus forte. Et ça faisait assez longtemps que je réfléchissais à une vasectomie. Et donc, du coup, après un petit temps de réflexion, sachant que le fait que je ne souhaite pas d'enfant, c'est quelque chose qui est assez ancré chez moi depuis très longtemps, depuis l'adolescence, j'ai décidé de me dire que oui, j'allais faire ça. Donc, en prenant le temps de réfléchir à est-ce que oui ou non, j'ai bien conscience du fait que c'est globalement irréversible. Est-ce que oui ou non, je sais que c'est quelque chose où je vais pas changer d'avis dans le futur, ou alors c'est peu probable. Et à force, du coup, de certitudes qui se sont construites là-dessus, j'ai décidé de sauter le pas et donc du coup de prendre rendez-vous avec un chirurgien urologue qui était spécialisé là-dedans. À l'époque, j'avais la chance d'habiter à Orléans où il y a un chirurgien urologue spécialisé juste à côté, donc c'était assez facile d'accès et où j'ai été écouté assez facilement, alors que pourtant sur mon profil j'avais moins de 30 ans, j'avais pas d'enfant, j'en ai toujours pas d'ailleurs du coup, mais normalement c'est des profils où il y a pas mal de regrets parfois post-opération, et donc on a pris le temps de discuter ensemble avec le chirurgien et j'ai décidé de faire une conservation de gamètes au cas où, si jamais les choses venaient à changer à l'avenir en termes de souhait d'enfant. Donc dans le doute, il y a une sécurité là-dessus. Et ensuite, bah, l'opération a été faite, et puis depuis, c'est quand même un gage de tranquillité d'esprit assez phénoménal sur le sujet de la contraception et du fait de bah, ne pas souhaiter d'enfant avec ma partenaire.
Je reviens un peu sur l'association des gonades, donc avec Max et Théo qui sont venus pour en parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'un ou l'autre, cette association, vraiment très rapidement?
Oui, carrément, avec plaisir. Donc, le collectif des gonades, c'est une structure qui est associative depuis pas longtemps. On a basculé au statut associatif l'an dernier, mais sinon elle existe. Max, tu me contredis, je me trompe, mais 2022, ouais, c'est ça. 21. Donc c'est une association, un collectif qui est mixte, qui porte des actions d'une grande partie autour des contraceptions et puis l'autodétermination médicale dans le choix des contraceptions, mais de manière beaucoup plus large aussi, les questions d'équité relationnelle, de santé sexuelle, affective, et qui travaillent, collaborent énormément avec le tissu local de santé, le tissu local féministe. On est aussi gracieusement hébergé à Neusig, par Neusig. On fait partie de l'ORCEA pour faire pas mal d'ateliers aussi dans leurs locaux. Voilà, donc on est un collectif avec un petit groupe actif d'une dizaine de personnes à peu près, avec différents temps tout au long de l'année, parfois des temps forts. On a organisé un festival autour de toutes ces thématiques-là en octobre passé, et voilà, on fait vivre l'association sur la région nantaise et un petit peu plus large aussi. On peut être amené à bouger un peu plus largement.
Ok, t'as dit autodétermination médicale, ça veut dire quoi exactement?
Bah, ça rebondit un petit peu sur les thématiques qui ont été abordées tout à l'heure par vous deux. C'est-à-dire, on a quand même, en tout cas sur le volet de la contraception en France, une approche qui est extrêmement médicale. C'est-à-dire que, bah, pour le coup, c'est dur de s'en affranchir. Alors quand on est une personne testiculée, on est beaucoup moins confronté à ces sujets-là. Mais sinon, voilà, les rendez-vous sont quasi obligatoires pour quand on est une femme cis, d'aller voir un premier rendez-vous avec un médecin pour se faire prescrire une pilule quasiment automatiquement au début. Enfin voilà, on a tout ce protocole-là, de la même manière pour des contraceptions dites testiculaires ou de la vasectomie. Il y a tout qui est très très médicalisé, et l'approche nous qu'on porte aux gonades, qui est, alors évidemment, si on porte des sujets autour des contraceptions, largement on s'inscrit quand même dans les preuves scientifiques, les protocoles médicaux qui existent, mais c'est aussi de se dire que si le système médical, il n'est pas non plus ultra formé, informé à toutes ces thématiques-là. Comment est-ce qu'on peut donner du pouvoir à toutes les personnes qui souhaitent se réapproprier leur corps, et les contraceptions en est un exemple, ben, comment ils peuvent trouver les infos facilement, justement, et sans éviter à passer des heures sur le net ou sur des fanzines où on ne sait pas trop comment ils sont écrits. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut partager facilement l'info pour que tout le monde puisse prendre des décisions de manière simple, en tout cas.
Donc cet asso a été créé notamment pour informer, sensibiliser, donner accès à l'information de base.
Oui.
Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que vous ouvrez vers autre chose? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre asso quand quelqu'un arrive?
Nous, on a toujours ces missions-là qu'on a envie de garder sur l'accès à l'information, le lien au réseau médical, les ateliers de fabrication, que ce soit à nos silicone ou couture. Les gens qui nous contactent souvent ont des parcours similaires aux vôtres. Sur à minima, on peut estimer aujourd'hui, peut-être sur les ateliers, les deux tiers viennent parce que leurs partenaires ont des galères de contraception, notamment hormonales. On n'a pas encore des chiffres ultra précis, on y travaille, mais en tout cas, il y a vraiment, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Et puis après, il y a plein d'autres raisons, quoi. Et en tout cas, nous, on a des gens qui nous contactent, qui, une partie, sont déjà dans un parcours d'accompagnement médical. Et d'autres qui n'ont pas encore fait de spermogramme de référence, ou qui en ont fait un, ou qui galèrent à trouver des médecins, ou qu'on oriente vers le planning familial, ou d'autres médecins formés là-dessus. Enfin voilà, il y a différents parcours comme ça. Donc nous, on a tout ce travail-là qu'on veut pas lâcher et qu'on veut même continuer de développer. On est en lien avec le réseau national et même plus, parce qu'on est en lien avec les assos allemandes, un peu le lien avec la Belgique, le Québec, tout ça. Mais en tout cas, on a aussi envie de travailler d'autres choses. Et puis le festival qu'on a organisé en septembre nous a amené aussi à ce truc-là, de se dire c'est quoi notre place un peu là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a envie globalement de parler d'autodéfense médicale, de santé sexuelle. Et aussi avec tous les débats en interne que ça vient poser, mais de comment on peut participer à soutenir la lutte féministe locale, à minima. Bon, on a envie de continuer de parler de charges contraceptives ou de santé sexuelle, mais sur d'autres sujets, avec des fois des ateliers avec un peu plus de mixité de genre. On a d'autres assos qui font d'autres actions ou qui nous parlent, quoi. Par exemple, la Bulle à Rennes qui fait des gardes d'enfants pendant notamment les manifs féministes, mais pas que. Je pense qu'on se rejoint sur certains aspects. D'ailleurs, le collectif sur l'antisexiste qui est sur les questions de contraception testiculaire est vachement en lien avec cet assaut-là. Et puis, j'ai l'impression, sur le festival de septembre, on s'est aussi dit que soutenir financièrement aussi les luttes féministes, si on pouvait le faire, on le ferait, notamment en soutenant des artistes humoristes queer ou... Bref, c'est plein de questionnements. On va voir ce que cette année donne. On a plein d'envie. Il nous faut du temps et surtout des gens pour porter ça. Mais en tout cas, il y a... Voilà, la contraception testiculaire, c'est toujours un prétexte. Même si ça répond concrètement à des réels besoins, malgré tout, c'est souvent un prétexte pour venir parler globalement de sexualité, du rapport au milieu médical et d'intime. Alors, des espaces d'intime, on puisse discuter de plein de choses, parce qu'on les a pas souvent, quoi.
Ok. Et vous faites des interventions auprès de quel public ? Est-ce que c'est qui le public touché ?
De base, le public qu'on a sur les ateliers, c'est plutôt des 25-35 ans, voire 20-35 ans. Le protocole, il a été écrit sur la thermique, sur le sous-vêtement, à partir de 20 ans. Donc ça, c'est le public initial. Sur les quelques, on a peut-être eu 200 personnes sur les ateliers depuis le début de l'assaut, il faudrait compter, mais en tout cas, c'était souvent des gens à la base des tissus associatifs et militants nantais, du coin, mais on a aussi des gens qui venaient de loin, enfin, il y a des fois des gens qui font 2 heures de route pour faire un atelier. J'espère que ça arrivera de moins en moins, parce que ça veut dire que sinon le tissu ne se développe pas, mais en tout cas ça arrive encore un peu. Moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution avec des gens qui sont un peu moins de ces milieux militants-là, mais c'est très compliqué de l'évaluer. Puis je pense qu'on n'a pas trop mis en place d'outils d'évaluation pour l'instant, mais peut-être ça va venir. Après, vu qu'on fait des projections de films ou des stands en festival, c'est là qu'on croise d'autres publics à des moments, et qu'ensuite on va voir revenir sur les ateliers, ou qui vont décider de passer par d'autres biais pour récupérer des dispositifs ou se faire accompagner. Enfin, nous, on voit pas tout le monde, mais à minima, quand on croise 300 personnes en festival et qu'on en cause, on sait qu'il y en a qui vont quand même aller s'inscrire dans une démarche de contraception par d'autres réseaux, quoi. Donc déjà, c'est bien, mais majoritairement, on est sur ce public-là, avec souvent beaucoup de mecs cis, mais on sait que c'est pas que le cas, et puis qu'en plus, je pense que c'est compliqué pour les personnes trans de sur ces espaces-là de venir nommer, surtout quand on parle de partie génitale, quoi. Donc du coup, on a des questionnements aujourd'hui sur comment être un peu plus inclusif là-dessus, notamment pour former des camarades trans et avoir des ateliers en autogestion là-dessus. C'est une des pistes, mais il faut qu'on voit d'autres. Et puis après, de fait, on est plutôt sur des gens qui sont dans un certain milieu socio-économique, mais j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une tendance à ce que ça se développe un chouïa et que ça ouvre un peu plus là-dessus. Mais bon, c'est compliqué après la description sociologique. On a toujours une blague en disant qu'on est sur des gens qui font de l'escalade et du vélo, mais c'est plutôt vrai. Mais je pense qu'on en ressort quand même à des moments.
Et du coup, est-ce que vous, Val-Adrien, vous faites de l'escalade ou du vélo ? Est-ce que c'est quelque chose de militant pour vous de se contracepter ?
Je suis venu à vélo.
Ah.
Mais je fais pas d'escalade. Je sais pas si je suis qualifié. Ouais, en fait, moi, c'est surtout cette rencontre avec l'urologue qui m'a en fait énervé, qui a fait que j'ai eu plus envie d'en parler et de normaliser ces échanges-là et de se dire, en fait, on peut parler de contraception et également chez les personnes testiculées. C'est pas grave, c'est pas tabou, en fait, on peut juste en parler. Il y a plein de trucs à voir et voilà. Et rien que le fait que le sujet maintenant existe. Hein, moi, je suis content de pouvoir aussi le porter un petit peu. Pas à l'échelle d'une association, mais dans des échanges, on croise quelqu'un, on discute, et parfois le sujet arrive ou il n'arrive pas. Pouvoir en discuter, c'est important.
Et du coup, pour ma part, en effet, je vais remplir le cliché parce que je fais de l'escalade et je fais du vélo. Après, de manière, je peux un petit peu sortir légèrement du cliché et revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la médicalisation du parcours et le fait que ce soit difficile d'accès justement pour les personnes qui ne sont pas des hommes cis. Parce que j'ai un passing très masculin, donc comprendre une apparence sociale très masculine qui me donne accès à tout un tas de privilèges, mais du coup globalement, en dehors de ça, moi je suis une personne non binaire, et concrètement quand je suis allé faire mon parcours médical, justement, je me suis bien gardé de le dire, et j'ai eu la chance de profiter de mon passing masculin pour pouvoir faire mon parcours médical sur le sujet un petit peu plus tranquillement, et donc à ce titre-là, en effet je me dis, pouvoir parler de contraception pour les personnes testiculées, c'est quelque chose de militant. Et maintenant que j'ai fait ma vasectomie, bah, je tiens à ce que ce soit pas un élément caché, un élément dont on parle pas ou quoi que ce soit, et au contraire, un truc qui soit dédramatisé auprès des gens autour de moi, de mes proches, pour que bah, le fait que je l'ai fait et que ce soit bien passé, et que j'ai des infos sur le sujet, etc., ça puisse se transmettre et que ce soit quelque chose qui soit moins tabou, parce que du coup, la procédure médicale pour la vasectomie, c'est qu'on prend un premier rendez-vous, on a besoin de l'aval du médecin pour continuer. Moi, si je n'avais pas décidé de faire une conservation de gamètes, ça n'aurait probablement pas été accepté, je pense. Et derrière, il y a 4 mois d'attente supplémentaire pour s'assurer que oui, on est bien sûr de vouloir absolument de faire une vasectomie. Et au bout de 4 mois supplémentaires, on a un deuxième rendez-vous où on assure que oui, je suis toujours absolument sûr de vouloir faire une vasectomie. Et une fois qu'on a ce deuxième rendez-vous, ça y est, on peut prendre notre rendez-vous pour faire le rendez-vous anesthésiste et la procédure chirurgicale en elle-même qui dure très peu de temps. Ça a dû se faire en une heure avec juste de l'ambulatoire derrière. Le soir, j'étais chez moi tranquillement et ça s'est super bien passé derrière, quoi.
Si je peux réagir là-dessus, moi, c'est un élément que j'avais beaucoup apprécié dans le côté anneau contraceptif où, en fait, j'ai dû un peu chercher, effectivement, mais j'ai trouvé de la documentation en ligne. Et le passage entre le moment où je me suis dit « Ok, j'ai envie de faire ça » et où c'est devenu physiquement possible, l'échelle, c'est la journée ou la semaine, le temps de prototyper un truc, même sans avoir une imprimante 3D à la maison, il y a des Fab Labs un peu partout, voilà. C'est vraiment ce côté où, de manière très autonome, de dire en fait je prends ça en charge et je me suis renseigné, j'ai pas besoin d'aller faire ce parcours du combattant de... Rendez-vous, 4 mois, rendez-vous. Et en fait, est-ce que t'es sûr ? Vas-y, va jouer des gamètes. Enfin, voilà.
J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas. Il me semble, Théo, dans ton parcours à toi personnel, il y a eu quand même un truc de « Ah, bah, c'est compliqué de trouver de l'info, c'est compliqué justement de mettre ça en place. » C'est peut-être que c'était il y a plus longtemps, je ne sais pas.
Ouais, moi, les premières prises d'infos sur la technique, c'était autour de 2019, je crois, de mémoire. Ouais, 2019, début 2020. Alors, c'était une époque où, effectivement, le collectif des gonades n'existait pas encore sur la place nantaise. Moi, j'ai eu pas mal... je veux pas que ça fasse en mode je me plains, parce que c'est vraiment des tout petits problèmes vis-à-vis de plein d'autres problèmes médicaux qui peuvent se produire, surtout sur des contraceptions dites féminines. Enfin bref. Mais du coup, beaucoup de heurts à des médecins qui étaient pas du tout pro ces méthodes-là. Moi, j'ai plutôt eu des retours de médecins qui, en plus de rien y connaître ou parfois s'y connaissaient, étaient totalement opposés à la méthode. Et je me souviens d'un rendez-vous avec une médecin du SUMS à l'époque avec ma compagne, justement, où elle exprimait ses difficultés vis-à-vis de ses contraceptions, les douleurs liées au stérilet, etc. Et la médecin qui se tournait vers moi en me disant « Non, mais vous imaginez pas à quel point c'est douloureux et que ça peut faire des irritations. » Enfin, voilà, des choses... Enfin, bref, du coup, j'ai eu 2-3, ou peut-être même 4 contacts avec des médecins, soit par téléphone, soit en direct, qui étaient complètement opposés à ça. Et en fait, moi, en tout cas, c'était la manière dont je le vivais à l'époque. Moi, j'avais besoin d'une assurance d'un professionnel médical qui me dise « Ok, let's go », parce que, du coup, il y a de plus en plus de gens, a priori, qui commencent sans avoir de rendez-vous préalable avec le médecin. Il y a quand même des antécédents médicaux à vérifier avec un médecin, qu'on n'ait pas des malformations, qu'on n'ait pas des antécédents qui font que c'est contre-indiqué. Moi, j'avais envie de le vérifier quand même. Et du coup, il fallait trouver un médecin qui, sinon être informé, était OK pour checker tout ça. Et j'ai mis vraiment du temps à le trouver. Et je l'ai trouvé grâce aux gonades à l'époque, qui commençaient à constituer un carnet de médecins... pas opposé en tout cas, et c'est ça qui m'a permis de déclencher, parce que j'étais pas pour acheter un truc en ligne sans être sûr que ça allait complètement me satisfaire.
Et c'est possible d'acheter en ligne aujourd'hui, mais c'était pas possible il y a 5-10 ans.
2017, je crois, Thorem crée le Landru Switch, ouais, je commercialise dans la foulée, ouais. Donc avant ça, c'était pas possible. Alors il y avait toujours la possibilité, parce qu'il y avait des collectifs qui existaient quand même déjà avant, plutôt en mode de couture, de jockstrap, qui est exactement le même système que l'anneau, mais en tissu. Du coup, on fait des ateliers couture. C'est Max qui gère, parce que c'est le pro de la couture. C'est le pro de la couture au gonade. Donc du coup, il y avait quand même la possibilité de se le fabriquer via la couture. Et c'est à partir de 2019, 2020 qu'on peut l'acheter en ligne.
Et depuis 2021, je crois, c'est ça, où ils se sont fait retoquer par la NSM parce que le dispositif était vendu comme un dispositif médical. Et là, au niveau de la sûreté du médicament, ils ont dit hop, on arrête. Donc maintenant, il y a une petite bifurcation pour pouvoir l'acheter quand même, mais ça peut flouter l'information à des personnes qui cherchent une information claire et précise et qui ne comprennent pas pourquoi il faut acheter un talisman pour être contracepté.
Parce que c'est comme ça qu'ils en font référence sur le site, c'est ça ?
C'est une œuvre d'art.
Une œuvre d'art.
Ah, ouais, j'ai vu ça où c'était.
Talisman réversible. Ouais. Mais bon, après, il y a une coopérative qui s'occupe de ça. L'étude de sécurité européenne, là, coûte cher, quoi. Donc ça arrivera potentiellement, brevetage européen. En tout cas, ils ont déjà des locaux pour l'usine dans le sud-ouest, là.
En 2030, voilà. Il y aurait une accréditation médicale, c'est ça ?
Je m'avance beaucoup, hein. Je parle d'échanges avec dans le réseau et tout. Et encore, cet échange-là, j'en ai d'il y a un an et demi. Mais enfin, en tout cas, ce ne sera pas avant, je pense, c'est sûr. On peut le dire, je crois que c'est plutôt sûr. Mais voilà.
Et c'est que en France ou il y a d'autres pays qui ont accrédité ?
En fait, la méthode thermique, le protocole de 91, il est lié à deux médecins français, enfin en tout cas à Mieuxet et Soufien. Mieuxet plutôt sur la thermique, Soufien qui est plutôt en lien avec l'hormonale derrière, mais en tout cas, du coup c'est très franco-français de base. Maintenant, de fait ça se développe aujourd'hui, il y a des dynamiques en Belgique, un peu en Suisse, en Allemagne et un petit peu au Québec. Et après il y a quelques pays où le sujet, on l'a déjà vu apparaître dans des articles de presse ou des trucs comme ça. Mais du coup, ça se développe quand même. Après, on reste plus actif pour l'instant en France. Je pense et par, je pense les luttes féministes, notamment du MLF, et aussi de Hardécom et tous ces gens-là, à la fin des années 70, début 80, plus la lutte militante en général en France, qui est pas la même sur ces questions-là. Un pays aussi avec une population assez massive quand même. Enfin bref, on y a re-questionné l'autre jour là, sur une réunion, et c'est compliqué de savoir, mais en tout cas, c'est quand même très présent en France, mais ça tend à aller un peu ailleurs.
Est-ce que vous êtes en lien avec des collectifs qui ne sont pas français, c'est ça ?
Ouais, on est dans ce qu'on appelle l'intercollectif de contraception testiculaire, on est une quinzaine d'assos à peu près, les collectifs en France et ailleurs, et en plus de ça, là, il y avait des premières visios européennes de langue française là, sur les contraceptions testiculaires organisées par le Collège de médecine générale il y a quelques jours. Du coup, il y avait à peu près 300 pros de santé en visio avec aussi des gens des assos pour parler de tout ça entre la Belgique, la Suisse, la France. C'était trop bien. Donc du coup, ça avance quand même, ce sujet-là. Et autant il y a 5 ans, on disait c'est compliqué de trouver des pros de santé. Aujourd'hui, un petit peu plus quand même, mais ça avance. Mais en tout cas, nous, à Nantes, sur les pros de santé, on est plutôt chanceux.
Okay. Et dans ce colloque, vous avez parlé de quoi ? C'est quoi les sujets que vous avez abordés ?
Souvent, on fait un point sur l'IVG. J'ai l'impression que c'est à notre marronnier, mais parce que de fait, il y a un vrai sujet là-dessus qui n'est pas gagné, et que les contraceptions définitives, que ce soit vasectomie, ligature des trompes, et puis les questions de l'IVG, enfin, ça, il y a énormément de liens statistiques aussi, quoi. Du coup, souvent, donc, on a fait un point là-dessus, et puis après, c'était plutôt des échanges, présentation des méthodes. Parce qu'il y a toujours un objet de formation, même pour les médecins, quoi. Enfin, c'est une réalité qu'aujourd'hui, plein de gens dans les collectifs sont finalement mieux informés que pas mal de médecins, et même des usagers. Après, on avait plutôt des ateliers de construction, enfin de réflexion. On a des choses sur le plaidoyer politique, des choses sur... Ça se structure, ça avance quand même.
Eh bien, merci à l'association des Gonettes d'être venue, et merci pour tous vos témoignages. Merci à tous les invités de cette émission, Manon Lacroix, Max et Théo Desgonades, Val et Adrien pour leur témoignage. Merci également aux chroniqueurs. Une émission réalisée par Cécile Berga, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux, et on vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle émission.
Radio-G. 101.5 FM.
Vous aimez Radio-G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio-G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Radio-G. www.radio-g.fr.